L'IA, un anti-héros, l'émission qui vous donne la parole pour interroger la place ambivalente de l'intelligence artificielle dans nos usages. Présenté par Myriam Djebara.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission L'IA, un anti-héros. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu particulier, un sujet que tout le monde parle, mais on ne sait pas trop le définir. On va parler de l'automatisation avec l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça veut dire, automatiser avec l'intelligence artificielle, pour les particuliers, mais également les entreprises? J'accueille aujourd'hui Patrick Scherfa, qui va venir nous expliquer, nous donner sa définition, et on va essayer d'expliquer et de débattre un petit peu tout le long de cette émission, pour bien vous expliquer ce que c'est automatiser, vous donner les clés pour pouvoir le faire chez vous ou dans votre entreprise. Bonjour Patrick.
Bonjour Myriam.
Merci d'être là.
Merci pour l'invitation.
Je te laisse te présenter, expliquer un petit peu ce que tu fais, voilà, aussi pourquoi tu es là, puis après définir l'automatisation à ta façon aussi.
Ok. Déjà, je m'appelle Patrick, donc je suis consultant en automatisation et intelligence artificielle au sein d'une entreprise. Et concrètement, j'interviens pour des clients, des clients divers et variés, pour des problématiques métiers. Moi, je trouve une solution, je conçois des solutions avec de l'automatisation, avec de l'IA, pour répondre à des besoins.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire automatiser? Parce que c'est vrai que c'est un mot qu'on utilise partout. Je le vois à la télé, moi je l'utilise même moi en conférence. Je l'entends vraiment tout le monde. J'ai des étudiants qui m'en parlent, j'ai des salariés qui m'en parlent. On veut tous automatiser, mais je n'ai pas l'impression qu'on définisse vraiment ce que c'est.
Ouais, c'est vrai que l'automatisation, c'est un peu un terme parapluie, un terme fourre-tout, où on met un peu tout ce qu'on veut dedans. Mais concrètement, c'est aussi simple que ça. On a une tâche manuelle et on veut la rendre automatique. C'est-à-dire, on veut qu'une tâche se réalise toute seule, sans l'intervention d'un humain.
C'est le but même. Moi, je dis souvent ça dans mes conférences. Je dis souvent, l'intelligence artificielle, la première des choses, c'est la prise de décision, mais c'est aussi réduire des tâches administratives et répétitives. Est-ce que du coup, c'est une question peut-être qu'il n'y a pas forcément de réponse, mais est-ce que l'intelligence artificielle, elle existe sans l'automatisation? Est-ce que l'automatisation peut exister sans l'IA?
Absolument, tout à fait. Il faut vraiment discerner les deux. Et je vais te dire, dans un contexte entreprise ou même personnel, moi personnellement, je vais toujours privilégier l'automatisation sans IA. Pourquoi ? Parce que l'IA, ça rajoute un facteur qui est aléatoire. C'est-à-dire que on a des réponses qui peuvent être variées. Des fois, on n'a pas forcément le résultat attendu. Tandis qu'une automatisation brute, c'est binaire, quoi. C'est oui, non, oui, non, oui, non. Donc c'est rigide, c'est solide et c'est fiable. Et tu l'as dit un peu plus tôt, oui, pour moi, l'IA, c'est de l'automatisation intelligente, finalement. C'est-à-dire, on va utiliser l'IA quand on a envie de rajouter une couche d'intelligence à son automatisation. Je peux donner un exemple très simple, par exemple, catégoriser un document. Voilà, on a un document, on veut savoir est-ce que ce document parle, je sais pas moi, de finance, est-ce qu'il parle de comptabilité. Là, avec une automatisation brute, en binaire, ça va être très dur de faire ça, ou du moins ça va être compliqué. Et là, quand on va rajouter de l'intelligence artificielle, ça va être très simple. On donne un document à ChatGPT, par exemple, il va te dire facilement si c'est de la comptabilité ou si on est sur de la finance. Et c'est là où l'intelligence artificielle rentre en jeu lors de l'automatisation.
Parce que c'est vrai que l'automatisation, donc ça fait réduire un temps minimum et maximum de temps, enfin ça fait gagner énormément de temps. J'ai l'impression, très utilisé en entreprise, un petit peu moins chez les particuliers, parce qu'effectivement, comme ça a été dit, il y a un peu ce truc où l'intelligence artificielle, l'automatisation avec l'intelligence artificielle, elle peut rendre des... Après, c'est que mon avis, mais elle peut rendre des tâches qui ont besoin d'une certaine personnalisation, des choses un peu impersonnelles.
Ouais.
Je m'explique quand je dis ça. En entreprise, l'automatisation, elle peut être utilisée, je pense, à bon escient. Surtout quand c'est des tâches qui sont administratives. Mmh. À défaut de perdre une heure, on va pouvoir allouer cette heure-là à d'autres tâches, notamment la relation client, faire des appels, ou faire d'autres choses aussi. Pourquoi pas aussi quitter un peu plus tôt, finalement. Par contre, dans les particuliers, parce que je voudrais bien qu'on dissocie bien l'automatisation chez les particuliers et l'automatisation en entreprise. Mais effectivement, chez les particuliers, on peut se poser la question, comment on peut automatiser, nous, nos tâches? Est-ce qu'on peut libérer un peu de charge mentale, comme on dit, grâce à l'automatisation? Et là où je vais aussi revenir à ce que j'ai dit il y a deux petites secondes, est-ce que l'intelligence artificielle, quand on l'intègre dans l'automatisation, est-ce qu'elle ne rend pas des tâches administratives plus simples, mais parfois d'autres tâches qui vont être un peu plus compliquées? Alors moi, j'ai ma réponse. Après, je sais que c'est assez subjectif, mais je veux bien savoir la tienne.
Alors, c'est vrai qu'il faut discerner un peu les deux. C'est vrai qu'en entreprise, là où j'interviens pour l'automatisation, c'est souvent des tâches parfois simples en apparence, mais où il y a énormément de volume. C'est-à-dire qu'on va passer, je prends un exemple, un consultant va passer peut-être 10 minutes tous les jours à faire un truc manuel. 10 minutes, c'est pas grand-chose, mais à l'échelle d'une année, et puis à l'échelle de plusieurs consultants, bah, ça devient un volume horaire incroyable. Et c'est là où on va mettre de l'automatisation rapide et simple, en général, c'est comme ça que ça se passe en entreprise, on veut faire vraiment au plus simple. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe en entreprise en général. Et par contre, personnellement, enfin, comme toi, comme moi, c'est vrai que utiliser de l'intelligence artificielle dans son automatisation, ben, c'est beaucoup plus simple. Exemple simple, aujourd'hui avec ChatGPT, on peut planifier des choses. On peut carrément donner un prompt, je souhaite, on parlait un peu plus tôt, mais je souhaite recevoir une newsletter à 7h30 tous les matins sur tel sujet. Aujourd'hui avec ChatGPT, tu peux le faire très facilement, juste en tapant 2-3 phrases, quoi. Et je pense que là, ça s'adresse un peu plus aux particuliers. Après, je sais qu'il y a des... Enfin, je sais, j'en suis sûr, parce que j'en utilise. Il y a des solutions qu'on appelle no-code, low-code. En gros, c'est des solutions d'automatisation où on ne va pas taper du code. On peut faire des choses très, très avancées avec ça. Et on va juste imbriquer, des briques, tout simplement. Il y a des outils qui existent aujourd'hui, qui sont gratuits, dans une certaine limite, comme par exemple Make.com, on a N8N, on a aussi Copilot, qui est connu de Microsoft. Tout ça sont des outils qui permettent de réaliser des automatisations complexes sans même taper des lignes de code, sans être très fort en informatique et en développement.
Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, parce que je lui posais la question, je disais, mais pour un particulier, comment un particulier peut automatiser? Et je lui disais, moi, mon échelle, alors du coup, je me représente encore un petit peu, parce que c'est vrai, je le fais à chaque émission, mais je suis conférencière, consultante et formatrice en intelligence artificielle, et il est vrai que je reçois beaucoup de mails, il faut que je traite une demande client, une conférence, ou peu importe, et j'ai essayé d'automatiser pour que, quand il y a un premier mail qui arrive pour me dire « Bonjour madame, est-ce que vous êtes disponible tant pour une conférence ?» qu'elle puisse me mettre et envoyer pratiquement automatiquement si oui ou non, je suis dispo. Et finalement, je me suis rendu compte d'un truc qui n'allait pas du tout, c'est que ça répondait ça répondait oui, je suis dispo, mais en fait, je me rendais compte que oui, mais si c'est à Paris et que je suis à Nancy la veille, c'est impossible pour moi de venir. En fait, j'avais un peu ce truc qui était pas personnalisable, alors que j'avais besoin d'une réponse personnalisée. Et dans mon cadre de vidéos YouTube, parce que je fais aussi des vidéos YouTube, je lis les dérives de l'intelligence artificielle avec des sujets qui sont communs, l'argent, se faire des amis, etc. Et j'avais eu un témoignage d'une personne qui était en entreprise, donc un chef d'entreprise qui m'avait envoyé un message pour me raconter qu'une fois, effectivement, il a automatisé en fait sa demande de ses prospects.
Okay.
Donc dès qu'il recevait un mail, une IA, donc une automatisation, parce que je sais pas s'il y avait de l'IA dedans, mais en tout cas l'automatisation répondait. Et s'il y avait de l'IA, parce que je crois que c'était génératif, puisque ça répondait bonjour, nanana, je reviendrai vers vous tant, nanana, ou si c'était fermé, si c'était ouvert, enfin voilà, ça donnait deux trois idées et deux trois infos. Et il me raconte qu'à un moment donné, il prend son ordinateur et il doit envoyer un mail à un de ses amis. Donc il dit ouais salut, comment tu vas, nanana. Et en fait, sans s'en rendre compte, il a en fait cassé son fil l'algorithme, et donc du coup l'automatisation, ce qui a fait que dans les mails d'après, ouais, qui étaient pour répondre à des clients, ça a envoyé salut nana. En fait, l'automatisation était complètement biaisée, parce qu'en fait il l'avait pris dans les mains à un moment donné, et c'est vrai que ça a un peu cassé un peu son tout le truc. Et moi, je me suis posé la question, je me suis dit mince, en fait c'est vrai que ça peut arriver. Je me dis en fait, comment une entreprise elle peut vraiment se alors là je change mais en fait finalement ça s'accorde aussi aux particuliers,
c'est un peu la même chose,
c'est la même chose, mais comment on peut s'assurer que ça automatise bien. Et puis aussi, deuxième question, et je suis désolée si elle est un peu large, mais comme je disais, je me suis posé la question de comment on pouvait automatiser. Moi qui ai essayé, je me suis dit, bon, c'est pas possible. J'ai essayé quand même d'automatiser d'autres trucs que j'ai même pas réussi à faire. Parce qu'en fait, je me rendais compte qu'il fallait que je lie beaucoup trop d'outils entre elles, enfin d'outils entre eux. Et je me suis dit, bon, en fait, ça sert à rien parce qu'en plus de ça, il suffit que je change d'outil à un moment donné pour que tout soit, voilà. Et moi, à mon échelle de conférencière, je pouvais pas me permettre. Donc, ma question c'est comment tu vois tout ça en entreprise, chez les particuliers? Est-ce que tu penses qu'en fait c'est quelque chose qui est viable? C'est un truc qui n'est pas encore maîtrisé? Voilà, il y a beaucoup de questions, mais je te laisse la parole.
Alors déjà, je pense qu'il y a quelque chose de fondamental dès qu'on parle d'automatisation et d'intelligence artificielle, c'est la data, la donnée. C'est-à-dire, ça va être la base de tout, tes fondations. Comment est ta donnée? Est-ce que tu as des données par-ci, par-là? Est-ce que tu vas aller piocher, je sais pas moi, tes mails par-ci, un PowerPoint par-là, machin? Est-ce qu'on peut les regrouper à un endroit? Tout ça, c'est des questions vraiment essentielles avant même de commencer un projet IA, c'est de savoir voilà, quelles données vont être utilisées, où est-ce qu'elles sont et comment elles vont être récupérées. Ça, c'est en entreprise, c'est absolument fondamental. Première question que je pose, c'est quelles sont les données, où elles sont. Et je pense, à titre personnel, c'est pareil. Tu me disais que t'avais plusieurs sources externes que t'essayais de relier entre elles. Je disais par exemple, Make ou N8N sont des outils qui permettent de relier plusieurs outils externes entre eux. Mais comme tu l'as souligné, ça peut être facilement complexe et surtout très chronophage.
Ouais, c'est ça.
Quand tu commences réellement là-dedans, tu sais pas où donner de la tête, tu fais beaucoup d'erreurs, rien ne marche comme tu veux, et c'est en essayant, expérimentant que tu arrives à des résultats qui sont un peu plus concrets. Donc ouais, c'est extrêmement chronophage. Ceci dit, une fois que tu as un petit peu compris le principe et que tu as passé quand même beaucoup d'heures dessus, tu t'arrives à faire des trucs incroyables. Tu peux aller facilement relier 5, 6, 7, 8 applications externes, faire en sorte que tout marche. Tu me disais tout à l'heure, ton calendrier, tu sais pas si t'es à Paris, machin, tu peux relier ton calendrier, je sais pas moi, Google, à ton Gmail, pour que voilà, ça sache si on doit répondre, oui, je suis dispo à ce moment-là ou pas. Pareil, ta localisation, enfin, tu peux relier énormément de trucs, t'as des possibilités qui sont quasiment infinies, et t'as énormément d'outils qui se développent là-dessus. Et ça, je trouve ça génial, c'est vraiment des outils, comme je disais, low-code, no-code, où il n'y a pas besoin d'être un expert développeur. Juste on relie des briques, quoi, c'est
ouais,
des Lego.
Ouais, c'est ça. Moi, alors j'avais réussi, hein, j'avais fait pas mal de choses, puis après j'ai arrêté parce que je me mets à la place du chef d'entreprise, donc d'une TPE, et souvent on me posait la question, hein, parce que quand j'interviens auprès des entreprises, on me pose souvent la question, hein, qu'est-ce que je pourrais automatiser? Et j'ai du mal des fois à leur répondre, parce que je me dis, même si j'automatise, pour une TPE qui vient de s'installer ou même qui est là depuis 2-3 ans, qui risque à un moment donné de changer, pourquoi pas de statut, changer d'outil, etc. Je me dis, purée, après, ça veut dire qu'il faut tout recommencer. Alors, je ne dis pas que je ne le fais pas, mais comment on peut pallier à ce sujet-là de, bah, si on change d'outil, comment on fait pour la reprise d'ancienneté? Est-ce qu'il faut tout recommencer, etc. Sachant que je suis d'accord avec toi. Moi, Make, j'aime bien. Je ne trouve pas que ce soit le plus intuitif. Après, effectivement, il faut passer des heures.
Ah ouais, ouais. Clairement, tu passes énormément d'heures là-dessus. Et pour répondre à ta question, c'est vrai que c'est une question qui revient tout le temps. C'est, et si je change d'outil? Et si la concurrence fait mieux? Je veux me diriger vers la concurrence, comment je fais? Et je t'avoue que ça, c'est une question qui reste un peu en suspens à tous les niveaux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en entreprise, il y a deux solutions qui existent. Il y a la solution des outils qui existent déjà. Et on ne va pas se leurrer, la plupart des entreprises, des grandes entreprises en tout cas, utilisent la suite Microsoft.
Bien sûr.
Et donc, ils font tout avec Microsoft. Ouais. Microsoft a un outil qui s'appelle Copilot Studio et Power Automate qui permettent de faire des automatisations. Et ils jurent que par ça. Ils veulent que ça parce qu'ils savent où est leur donnée, ils savent comment ça se fait, ça ne sort pas de l'écosystème, machin. Et tu as la solution, la deuxième, c'est la solution custom. Donc, la solution où on va faire appel à des vrais développeurs qui vont taper des lignes de code, tout ça, et qui vont te faire une solution vraiment customisée et pour toi, pour tes besoins, et surtout qui est souveraine, c'est-à-dire tu vas garder cette solution pour ton entreprise. Tu vas pas la partager ailleurs, contrairement à ce qui peut se faire avec Copilot et Power Automate, même si tu as signé des contrats disant que voilà, les données, c'est chez moi. On va pas se mentir, si tu crées quelque chose chez Microsoft, tu peux être sûr à 100% que ce que tu auras fait sera servi pour leur produits à eux plus tard.
Bah, c'est tout le sujet de l'IA et même de, enfin tout le sujet
la
de l'automatisation
des données.
Et de l'IA en général. Moi, ça devient de plus en plus ma spécialité, je le dis. Et ça étonne même certains et plus d'un, parce que quand on m'appelle pour me dire bah là, madame, j'ai besoin de quelqu'un qui vient m'implanter un outil, je dis mais je le fais pas. Je n'implante pas des outils IA sans former et sensibiliser d'abord sur les données.
Absolument. Ah ouais.
Et on sort souvent, on me dit souvent oui, mais je suis chez Microsoft. Comme tu dis. Ou alors, ouais, mais c'est bon, on a ChatGPT Business.
Ouais.
Parce qu'il y a le pro, il y a le business oui. Qui, voilà, qui, en plus, s'engage en partie d'une sécurité des données. Mais c'est ce que je répète souvent. Je dis, bah oui, vous pouvez signer. C'est ce que je dis tout le temps. Néanmoins, vous pouvez être sûr que ça reste chez eux, du coup. Et après, qu'est-ce qu'ils en font, on ne sait pas. Ça reste souveraineté américaine, là, pour le coup.
Et ben voilà, et en plus, bon, c'est vrai que c'est sur des serveurs qui sont en Californie, il me semble, ChatGPT. Et bon, on connaît un peu les lois d'intelligence artificielle américaine. On peut, tu sais, des fois, si par exemple des agences gouvernementales, le FBI fait toc-toc, les données, ils vont chez eux. Hein.
Ouais,
ChatGPT, ils les donnent.
Bien sûr.
OpenAI, ils les donnent. Ouais.
Bien sûr. On va parler des données, on va parler des avantages, parce qu'on en a quand même parlé des limites. On va parler aussi des avantages, donner des cas concrets, des petites anecdotes sur l'automatisation de l'intelligence artificielle. À tout de suite.
Yeah. fate of Ophelia.
RCN, l'IA, un anti-héros, Myriam Djebara.
Merci d'être là, bienvenue à ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure. Aujourd'hui on parle d'automatisation et l'intelligence artificielle. On a regardé un petit peu les limites de l'automatisation. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Est-ce que ça s'utilise pour les particuliers? Quel outil utiliser? Mais aussi pour les entreprises. Là on va essayer de parler un petit peu des avantages quand même. En quoi c'est avantageux d'automatiser pour une TPE-PME, pourquoi pas une grande entreprise? Et aussi dans le particulier, comment on peut essayer, comme je disais tout à l'heure, un petit peu de retirer de charge mentale pour avoir un quotidien qui soit le plus plaisant possible, automatiser un maximum. Comment faire? Quoi faire déjà? Parce qu'il faut aussi avoir des idées. Je suis accompagnée de Patrick Scherfa, qui est consultant en automatisation. C'est ça le titre?
C'est
exact?
Ça. Okay. Automatisation et intelligence artificielle.
Voilà, dans les entreprises,
oui.
Mais qui l'utilise beaucoup dans sa vie de tous les jours.
J'utilise au quotidien.
Voilà, au quotidien.
Oui, oui. Ouais.
Petit rappel rapidos de ce que c'est l'automatisation, peut-être.
Tout simplement rendre une tâche manuelle automatique, donc voilà. sans l'aide d'un humain. Quoi.
Voilà, connecté aussi des outils à l'aide d'API.
Exactement.
On n'a pas expliqué ce que c'était.
C'est vrai.
Moi, effectivement, l'automatisation, elle fonctionne grâce aux API. Je vais définir ce que c'est. Un API, moi, j'aime bien définir comme étant un pont entre deux solutions, deux outils, ça peut être aussi deux IA d'ailleurs.
Oui.
Mais c'est un pont entre deux, ce qui permet de connecter, en fait, deux outils pour avoir le meilleur des deux mondes. Voilà, c'est comme ça que je la définis, pour expliquer un petit peu. Moi, à mon échelle, de jeune de 26 ans qui fait des vidéos YouTube, qui fait ses conférences, etc., j'automatise ce que j'essaye d'automatiser. Je vais, par exemple, j'aime bien avoir des infos, qu'est-ce que je fais. Je fais des choses, hein, mais des fois, en fait, je ne me rends même plus compte que j'automatise. C'est aussi ça, hein, c'est un peu la facilité.
C'est le but au final,
ouais, c'est,
hein.
Ça.
C'est qu'on s'en rend plus compte.
Ouais, c'est ça. C'est dans la vie de tous les jours, je vais retrouver des idées, je dois en avoir. Mais en tout cas, à l'échelle de mon entreprise, j'ai beaucoup de mal à intégrer l'automatisation. Déjà parce que, et c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai peur aussi de changer des outils, puisque mon entreprise, elle a pas 10 ans non plus. Mais aussi parce que je reçois des mails qui sont très personnels et très personnalisés. Et j'ai un petit peu peur, effectivement, que les réponses soient trop générales, trop généralistes. Et ça me dérange un petit peu. Après, effectivement, là où on peut automatiser pour une entreprise PME, je vais même pouvoir dire, ou en particulier, est-ce que tu as des exemples un peu concrets qu'une entreprise pourrait faire? Bon, moi, j'en ai aussi, mais je vais te laisser la parole.
Ouais, alors tout simplement, alors pour une PME, je pense qu'au stade de PME, on peut encore se permettre de choisir des outils, d'essayer, de changer par la suite. C'est quelque chose qui peut se faire encore. On n'a pas des volumes gigantesques avec des coûts gigantesques, donc on peut tester, on peut essayer. Mais c'est vrai qu'en termes d'automatisation pour une PME, moi la première chose qui me vient à l'esprit, c'est tout simplement le service client, la relation client. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, on a une entreprise qui vend des biens, des services. On est appelé par des utilisateurs, en fait, par des clients, tout simplement. Et parfois, ça peut être redondant. Parfois, on a des questions qui reviennent très souvent. Alors, parfois, sur les sites internet, on a des FAQ, des foires aux questions, où tu as des questions redondantes qui sont répondues. Mais globalement, je sais qu'il y a pas mal d'entreprises en ce moment, c'est un peu la mode, qui mettent des répondeurs automatiques avec de l'IA. Où on va expliquer le problème et l'IA va trouver une solution dans la mesure du possible. Et c'est des IA qui ont, qui n'ont pas beaucoup de créativité, si tu veux. Parce que ça, on peut réduire, on peut changer ce qui s'appelle la température d'une IA, si elle va être créative ou non. On va la mettre au minimum pour éviter qu'elle dise des sornettes, des bêtises. Et elle va répondre du mieux possible aux clients qui appellent pour se plaindre souvent. Et si l'IA ne trouve pas de réponse, elle va alors là diriger vers un vrai consultant, vrai employé humain.
Effectivement, elle n'est pas très créatrice et créative. Et on en parlait la dernière fois, le thème de l'émission d'avant, et je vous invite à la regarder sur YouTube d'ailleurs, c'était l'IA et l'art. Donc j'avais recevé des futurs directeurs artistiques qui parlaient de leur peur ou aussi des avantages d'intelligence artificielle dans l'art. Mais pour y revenir, là, j'avais un petit peu l'exemple. Je me disais, on peut automatiser. Alors, je reviens juste sur le fait qu'une PME peut se permettre, ça, je suis complètement d'accord.
Ah, oui, oui.
Une grande entreprise encore plus.
Oui.
Après, effectivement, c'est vrai que elles aiment bien quand même être sûres de savoir où sont ces données, etc. Puis surtout, le règlement de température, j'ai bien aimé parce que surtout si j'appelle et que j'ai une IA, qu'elle soit faible ou générale, donc faible, c'est-à-dire un chatbot ou générale, c'est-à-dire une IA qui va être générative, si j'appelle ton entreprise et qu'elle me donne une information, même si elle est fausse, c'est vous qui êtes responsable.
Eh bien oui, c'est ça aujourd'hui le gros défi, c'est qu'on peut pas se permettre, une entreprise ne peut pas se permettre de balancer tout et n'importe quoi par mail ou bien par téléphone, c'est pas possible. Et c'est pour ça que tu avais donné l'exemple tout à l'heure avec les emails que tu essayes d'automatiser, tout ça. C'est vrai que c'est quelque chose qui est très délicat, parce que, comme tu dis, on ne peut pas se permettre de faire une erreur dans ce genre de cas, quoi. Et personnellement, j'ai vu aucun client qui a demandé d'automatiser des emails. Je pense que c'est trop compliqué.
Ouais, je pense aussi. Et je pensais tout à l'heure à un exemple d'une entreprise qui pourrait effectivement, pourquoi pas, à un moment donné, automatiser certaines tâches. Je me souviens qu'il y a déjà 2 ans, j'avais automatisé PowerPoint pour qu'elle puisse me faire les présentations la plus belle possible, parce que c'est quelque chose que je déteste faire.
Ah oui, bah pareil.
Je déteste ça. Je trouve que ça me fait perdre du temps, mais j'en avais besoin. J'avais ce besoin-là d'avoir des présentations qui soient présentables, qui soient agréables à regarder, qui soient agréables à lire. Et donc, j'avais automatisé, en fait, j'avais mis un API entre un outil IA, que je ne peux pas citer forcément, et PowerPoint. Et je m'amusais à faire ça. Et je m'étais déjà rendu compte de la tâche, enfin, du temps gagné de la tâche que je ne faisais pas. Après, je repassais derrière, forcément. Mais je me suis aussi rendu compte que parfois, elle pouvait mélanger les données, forcément. Il y avait des erreurs. Quand on veut créer un graphique, parfois elle se trompait, l'abscisse leur donnait, et donc il fallait regarder derrière. Et donc ça, c'est très important. J'invite tous ceux qui nous écoutent, si vous automatisez, regardez derrière vous ce que vous faites, essayez de contrôler et faites aussi des audits, pourquoi pas de temps en temps.
Absolument.
Sur les outils que vous intégrez. Mais en tout cas, j'aime bien le dire souvent, je dis moi je suis allée dans l'intelligence artificielle parce que je suis le genre de personne qui, si elle peut gagner 2 secondes, elle gagne 2 secondes, et c'est en ça que je vais automatiser. Donc il y a des outils d'automatisation, il y a Make, il y a N8N aussi, qui est d'ailleurs, je crois maintenant, commence à être un petit peu le leader, qui est très apprécié des entreprises. En tout cas, je connais beaucoup de consultants qui parlent énormément d'N8N. Il faut prendre quand même la main, faut avoir la main quand même sur l'outil, je trouve.
Absolument.
N'hésitez pas à vous faire accompagner, n'hésitez pas à vous former, d'appeler des consultants, etc. pour vraiment prendre en main. En tout cas, ça fait gagner quand même énormément de temps, surtout pour les tâches administratives et les tâches de reporting également.
Et tâches de reporting, ouais, exactement. Et c'est vrai que c'est des outils. Ben, pourquoi N8N devient un petit peu leader? C'est parce qu'ils ont une formule gratuite qui est très intéressante. Pour un usage personnel, ça fait le taf, hein, j'ai envie de dire. Pour une entreprise aussi, on a des tarifications qui sont très intéressantes. Et aussi, N8N, c'est quelque chose qu'on peut héberger localement. C'est-à-dire qu'on va faire tourner ça sur des serveurs qui sont internes à l'entreprise. Donc les données ne sortent pas du tout de l'entreprise. Et c'est là où ça devient très intéressant, mais ça a des coûts aussi.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il y a une solution à tout ce qu'on a dit tout à l'heure, au fait que à qui est la souveraineté des données. Il y a une solution, c'est l'IA locale.
Ouais.
C'est ce que moi je dis quand on m'appelle et qu'on me dit quelle est la solution qui va me permettre d'être sûr que ma donnée va pas se fuiter. Bah moi je réponds, c'est une IA locale. Par contre, ça coûte extrêmement cher. Que ce soit d'ailleurs l'IA la plus faible possible. Moi j'aime bien donner comme exemple l'IA faible, le chatbot.
Ouais.
Et sachez qu'un chatbot en interne, hein, qui est hébergé en interne, etc. c'est 5 000 euros, entre 5 000, et ça peut aller au-delà.
C'est des coûts pas possibles.
C'est des coûts.
Et je vais te dire, de tous les clients que j'ai vus, la question du local, ça revient tout le temps sur la table.
Ouais.
C'est pas envisageable.
C'est jamais
pour la
envisageable,
plupart des entreprises, c'est pas envisageable, sauf si dans le cas précis où la donnée est le cœur même du business de l'entreprise. C'est-à-dire, on veut pas que la donnée sorte.
Ouais.
Et on capitalise là-dessus, et c'est le propre, c'est le fonds de commerce. Mais dans tous les autres cas, non, le local, ça vaut pas le coup. C'est des coûts monstrueux en termes de matériel, il faut de la maintenance, donc il faut engager des personnes pour ça. Le matériel, il tourne à plein régime, hein, donc il devient défectueux ou bien il faut le changer au bout de 2 ans. La technologie avance énormément. Bref, c'est un trou financier pas possible.
Ouais, exactement. Et puis en plus, je rappelle qu'une fuite des données, ça coûte extrêmement cher pour une entreprise. Donc il faut quand même s'héberger. Puis je dis ça parce qu'en interne, il y a quand même aussi, s'il n'y a pas de maintenance, s'il n'y a pas de contrôle, s'il n'y a pas d'audit, ça n'en... c'est pas parce que c'est en interne que ça protège non plus complètement.
Ah bah oui, totalement.
Donc, oui. Ça peut parfois être même plus simple pour hacker, pour fuiter, etc.
Absolument.
Donc, je rappelle quand même que la donnée, c'est très cher.
Ah oui.
Et je l'avais chiffré à un moment donné. Je pense que ça a changé depuis quand même, mais je crois que c'était à peu près 2023. Avec ce que j'avais pu voir, j'avais dit qu'une donnée, c'était environ 5 euros. La donnée.
Ok. Ouais.
Donc je pense qu'aujourd'hui c'est peut-être un peu plus parce qu'il y a sûrement de plus en plus de données qui sont confidentielles. Effectivement, il y a le principe d'IA local. Après, on peut se faire héberger ailleurs aussi, ça peut être une solution. Est-ce qu'il y a une autre solution aussi de la protection des données?
Eh ben, nous on a la chance d'être en Europe. On a quand même une régulation qui est très forte et qui plus est en France. Alors il y a des acteurs français. Je pense notamment à OVH, qui est un hébergeur qui est situé à Roubaix, en France. Donc, on reste sur le territoire français. Alors, ça reste du cloud, donc ça reste hébergé, pas localement, quoi. Mais on reste en France.
Ouais,
donc, s'il y a
ça,
un problème, on sait qui aller voir. On sait qui aller...
Ouais,
voilà, on toque à la porte et on dit, hop là, il y a un petit problème.
Bah, au moins, ouais, ils sont régis sous la législation française. Donc,
ouais,
ça, c'est quand même,
ouais,
c'est quand même un point positif. Hein.
Clairement, ouais.
Bon, après, bon, l'automatisation, ça va pas forcément faire fuiter la donnée, mais c'est vrai qu'il y a cette question là qui reste quand même, moi je trouve, la plus importante.
Et
petite conclusion de tout ça, est-ce que t'as
Écoute, moi je pense que je trouve que l'intelligence artificielle et automatiser les choses, c'est formidable, enfin moi j'adore ça, j'en ai fait mon métier d'ailleurs, et je pense que c'est en plein développement, on est vraiment qu'au début, et c'est qu'une question de temps avant que tout ça devienne je dirais invisible.
Ouais.
Ça sera partout, on s'en rendra plus compte. Comme Internet,
ouais,
aujourd'hui,
ça,
tout le monde l'utilise.
Ouais.
Avant, c'était une révolution, maintenant, c'est parti,
ouais,
notre quotidien.
Bah, moi, je donne toujours l'exemple là d'Internet.
Voilà.
Alors, des fois, on va me dire non, c'est pas vrai, ça se ressemble pas. Alors, moi, je trouve que c'est pratiquement la même chose.
Oui.
Et non, effectivement, on s'en rend pas compte. Et puis d'ailleurs, tu vois, tout à l'heure, quand j'ai essayé de chercher un cas où j'automatisais dans mon vie particulière, je sais que je le fais, je suis même incapable aujourd'hui de te dire parce que Et tant mieux, j'ai envie de dire, parce que ça me fait gagner un peu de temps. Mais l'automatisation, pour conclure, c'est bien, ça peut vous faire gagner énormément de temps, réduire des tâches administratives, des tâches de reporting. Il y a plein d'outils, on les a tous cités. Je vous invite à les regarder, à aller vous renseigner aussi un petit peu. On a essayé d'évoquer un petit peu les avantages et les limites pour les TPE, les PME. On a parlé aussi des grandes entreprises, pour les particuliers aussi. Et j'espère qu'en tout cas, ça a été plutôt clair, expliquer un petit peu ce que c'était l'automatisation. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Merci Patrick.
Bah, merci à toi.
Et j'espère
merci
te revoir un jour dans cette émission pour parler d'un autre sujet ou peut-être un peu plus en profondeur sur l'automatisation.
Ah bah avec plaisir.
Je vous remercie. Must be exhausting, always rooting for the end to hear.